Le livre dont nous parlons a l'avantage d'être écrit par 8 auteurs différents, ce qui donne différentes approches du travail que l'on peut faire à partir de François Julien. Le premier texte essaye de faire entrer dans la pensée de François Julien, et les textes suivants travaillent à partir de la pensée de François Julien. C'est un livre qui a l'avantage d'être lisible par tout le monde, je tiens à le dire. C'est pas un livre pour philosophes, exclusivement. C'est un livre qui peut se lire, qui jargonne pas. Ce qui est le cas, il me semble également, et c'est l'avantage, des ouvrages de François Julien. François Julien n'est pas un philosophe qui jargonne. C'est pas un philosophe qui invente des mots ou qui serait abscon. Et on n'a pas besoin de connaître le chinois pour découvrir l'œuvre de François Julien. Je crois que c'est important à dire. N'importe qui peut lire les ouvrages de François Julien. C'est la première chose que je voulais dire. La deuxième, c'est par rapport à la langue. Il faut être précis, François Julien ne dit pas que la langue détermine la pensée, mais il montre qu'une langue incite à penser d'une manière ou d'une autre. Nous avons en Occident des langues qui nous incitent à distinguer le singulier du pluriel, le masculin du féminin, parce que dans nos langues occidentales, il y a du singulier et du pluriel, il y a du masculin et du féminin, il y a des noms et il y a des verbes. Or, en chinois, il n'y a pas de singulier et de féminin, il n'y a pas cette distinction-là, il n'y a pas de masculin et de féminin, singulier et pluriel, il n'y a pas de distinction entre un nom et un verbe. Donc on voit comment nos langues à nous, nos langues occidentales, nous incitent à penser d'une certaine manière par sa structure même, par les distinctions qu'elle opère. Autre chose que je veux dire, mais nous pouvons comprendre les Chinois. C'est-à-dire que ce que nous avons en commun avec la Chine, c'est de l'intelligible. Il n'y a pas d'opposition radicale et absolue entre l'Occident et la Chine. Quelqu'un qui fait l'effort de comprendre le chinois comprendra l'intelligibilité de la langue chinoise. Donc, il n'y a pas de notion commune entre nous et les Chinois. Il n'y a pas de notion commune. Mais il y a quelque chose que nous avons en commun, c'est d'être des hommes, donc c'est l'intelligibilité. Voilà, nous avons en commun l'intelligibilité. Autre chose, pour poursuivre un peu encore, je prends l'idée générale suivante et le concept suivant. L'idée générale suivante, la Chine pense des processus, pense le monde comme une transformation globale. Voilà, idée générale, trop générale sans doute, mais qui permet déjà d'entrer. La Chine pense le monde comme en transformation globale. Nous pensons en Occident, parce que la langue nous incite à penser comme ça, nous pensons des choses. C'est-à-dire que cette bouteille, certes, je la perçois, mais sous ce que je perçois, ce que la métaphysique appelle les accidents, il y a quelque chose, il y a une chose, une substance, qui est la substance de cette bouteille. Dans cette bouteille, il y a de l'eau. Bon. L'eau, c'est quelque chose, c'est une substance, l'eau liquide. Mais l'eau à l'état solide, c'est une autre substance. Et donc, alors que l'on pense le monde en pensant des choses, nous avons du mal à penser le passage, la transition. Il y a l'eau solide et il y a la neige. Mais nous avons du mal à penser le passage, la transition entre l'eau et la neige, puisque comment ça se transforme, comment ça passe. Or la Chine pense plus facilement que nous en Occident le passage, la transformation. Nous pensons l'événement en Occident et nous pensons pas les transformations. Et là, François Julien forge un concept qui est le concept de transformation silencieuse. La transformation silencieuse, c'est une transformation globale, continue, et globale et continue, ce qui fait qu'on ne s'aperçoit pas que la situation se transforme. Mais c'est qu'après coup, sous la forme de l'événement, que cette transformation surgit. Par exemple, deux personnes, on le sait tous, deux personnes qui s'aiment, elles sont amoureuses, elles s'aiment, et elles ne se rendent pas compte que la situation évolue et que l'amour se délite peu à peu, de manière insensible, qui fait qu'on ne s'aperçoit pas que l'amour se délite, mais ce n'est qu'après coup que d'un coup surgit le fait qu'on ne s'aime plus. D'un coup, on s'aperçoit, après coup, que nous n'avons plus rien en commun et nous ne nous aimons plus. Or, il n'y a pas de passage d'un coup de la situation « on s'aime » à la situation « on ne s'aime plus », mais il y a eu transformation globale de la situation qui fait que peu à peu, l'amour entre deux personnes s'est délité. Donc certes, il y aura le moment de la rupture, l'événement de la rupture, mais en fait, cet événement de la rupture n'est que l'affleurement d'une transformation globale de la situation. Alors effectivement, ça permet des stratégies intéressantes. Tout ce que je vais dire est un peu caricatural, ou faudrait préciser beaucoup plus. Mais par exemple, en Occident, on a une stratégie de l'action. On pense le monde comme fait de sujets qui agissent. Je prends l'exemple de la relation amoureuse encore une fois. On va, par exemple, déclarer à quelqu'un qu'on l'aime. On va lui dire « je t'aime ». Au risque de créer la rupture, l'autre va nous dire « non, moi je ne t'aime pas ». Or, la Chine permet des stratégies d'action fines qui permettent d'entrer dans la situation et de la transformer peu à peu pour qu'elle soit profitable. Au lieu de dire à quelqu'un, donc stratégie amoureuse, au lieu de dire à quelqu'un « tu sais, je t'aime », et l'autre va tomber des nues et va dire « attends, moi je t'aime pas ». On va amener l'autre à tomber amoureux de soi. On va faire basculer ce que François Julien appelle le potentiel de situation de son côté. On va être gentil, on va agir de manière minuscule par des petites actions sur lesquelles l'autre n'aura pas prise, puisque ce sera des actions minuscules, qui fait que peu à peu, on va amener l'autre à nous déclarer qu'il nous aime. Et du coup, on aura agi en sous-main, en transformant la situation à son profit. Pareil, bien sûr, pour divorcer. Au lieu de dire « je te quitte », l'autre va se retourner contre nous et il aura l'avantage. On va créer une faille progressive qu'on va élargir progressivement entre nous et l'autre pour que soit l'autre qui nous dise « je te quitte ». Voilà. Donc au lieu d'agir frontalement, on va agir de biais, comme dit François Julien, de biais pour permettre à la situation globale d'avancer dans la direction qui nous intéresse.
Oui, bon. Mais je vais rebondir là-dessus, ça me paraît tout à fait juste. Et ce qui est intéressant, c'est assez drôle ce qu'il dit d'ailleurs, c'est un passage assez amusant de son dernier livre, Entrer dans une pensée. D'abord, je me disais, bon, l'exemple de l'amour est intéressant, je ne sais pas, il faudrait voir exactement où est-ce qu'on en est des crimes passionnels en Chine, est-ce que la notion de crime passionnel existe, etc. ou pas. Parce que c'est vrai que chez nous, ça se règle souvent par des passages à l'acte, même extrêmes. Il y a des accidents et même des meurtres épouvantables en général, notamment du côté masculin. J'ai l'impression que souvent, on règle ça, à savoir on tue la femme et on tue tout le monde en même temps, et puis après on se suicide, ce qui est quand même évidemment une attitude un peu calamiteuse. Parce que je me posais la question, simplement, comment, puisque j'ai été maoïste, justement, à l'époque, et on était fasciné par la Chine, quand même, on était fasciné par ces corps chinois, par la manière dont les choses se passaient, par les gardes rouges, par les dazibao, les fameux dazibao, les inscriptions, etc. Pourquoi ça passait par les dazibao? En quoi c'est différent du militantisme habituel? Et puis toutes ces révolutions de la vie quotidienne, est-ce que c'était bien vrai, etc., tout ça. Mais en même temps, je me dis, comment est-ce que, si tout ça est vrai, c'est certainement vrai, comment la Chine a-t-elle pu se laisser capturer par un langage justement de la domination, de l'action, de la rationalité marxiste-léniniste, qu'il n'y a rien par rien de plus occidental, sans probablement l'adapter. Alors il fait allusion, page 170, en disant que, notamment pour lire Le quotidien du peuple, puisqu'à l'époque, c'était encore la fin de la révolution culturelle, il était à Shanghai. Il m'a fallu pour lire apprendre à voir comment au fil des jours, les énoncés formulaires émergeaient, se détachaient, se condensaient, s'isolaient, devenaient invariables et d'une seule pièce, etc., étaient seulement l'effet de la propagande. Et plus loin, il montre quand même cette question de la traduction. Je pense qu'il a raison de dire que la traduction, c'est directement quelque chose d'éthique. Parce que ça touche directement la langue, et je pense que c'est la langue dans laquelle on est bercé, c'est la langue qui nous fait humains, fondamentalement, et que d'une certaine manière, c'est la langue qui pense en nous. Vous dites, elle nous insiste, mais je dirais que souvent, c'est la langue qui pense au travers de nous, c'est plutôt nous qui sommes à l'écoute de la langue pour penser, et pour parler, et pour écrire. Il cite notamment les restaurants chinois près de chez lui à Paris, et il dit, je m'amuse à considérer les noms des restaurants chinois de mon quartier. Que lit-on sur ces enseignes et qui, à sa façon, fait aussi texte. Il traduit du chinois directement. Nouveau florissant, Xing Sheng. Ou la rue suivante, essor déploiement profit, Xing Fali. Ou encore, envolample déploiement, Qi Hong. Et il dit, or, comment sont traduits ces noms d'enseignes? Je le cite en reprenant ces noms chinois à la signe. C'est délicieuse mange, de la rue mange, délice asiatique, délice express. Et quant aux deux premiers mots du classique du changement, c'est « chez Tony ». Voilà, autrement dit, là, il y a ce qu'on peut appeler vraiment une impossibilité de traduction, un refus, surtout un refus de traduire. Et je pense que la question de la traduction, c'est très vrai. Je pense que quand on se met à traduire un texte d'une autre langue, que ce soit un texte allemand de Heidegger, moi qui suis français, que ce soit un texte grec d'Aristote, que ce soit un texte hébraïque, on est confronté à quelque chose qui tient à l'essence même des choses et qui nous déstabilise complètement, qui nous fait voyager, comme dit excellemment François Julien. Hein, il conclut sur l'éthique en disant que c'est quasiment une fonction éthique. Je ne sais plus comment il dit ça dans ce livre. En quoi traduire est en lui-même éthique? Traduire est en lui-même éthique. Ça nous oblige à voyager. C'est pas intégrable dans une totalité. On peut pas l'absorber dans sa langue. On est obligé de voyager à l'intérieur de sa propre langue pour faire entendre dans sa propre langue ce qu'on a réussi à entendre de la langue de l'autre. Et ça, je crois que c'est une grande leçon et que c'est une des choses qui m'attache beaucoup au travail de Julien, justement. Ça, c'est très important. C'est une de ses conclusions, d'ailleurs, d'entrer dans une pensée, c'est que la morale, c'est pas la morale au sens courant du terme, le bien, le mal, c'est beaucoup plus, effectivement, se situer à l'écoute de l'autre, fondamentalement à l'écoute de l'autre, c'est-à-dire de la langue de l'autre tel qu'il existe dans sa langue. Et de ce point de vue-là, moi, j'avais été fasciné quand même, je vous parle de la Chine, moi, je connais mal la Chine, je suis pas allé. J'ai pas fait le voyage en Chine avec les gens tels quels, hein. Et à l'époque, plutôt, les militants du groupe de Badiou, ils allaient plutôt en Albanie. J'avais aucune envie d'aller en Albanie. C'est vrai, je reconnais, hein. J'étais un militant, mais avec des réserves, hein, importantes sur certains pays communistes. Je voulais surtout pas mettre les pieds. La Chine me faisait peur aussi, je dois dire, c'est vrai. C'est les deux films que j'ai pu voir à l'époque, c'est-à-dire le film d'Antonioni, qui s'appelle La Chine, que j'ai trouvé en DVD, qui reste un film extraordinaire. Extraordinaire. C'est-à-dire, il filme pas, justement. Il n'est pas là pour filmer. Il filme la manière dont les Chinois le regardent. Il filme la manière dont la Chine le regarde. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et du coup, on a des réactions tout à fait stupéfiantes. Et puis, en même temps, on a une vision de ce que c'est que la Chine par rapport à la France. C'est l'immensité du paysage chinois, l'immensité des campagnes chinoises. C'est gigantesque. Les hommes sont des petites fourmis là-dedans. Et puis, bien entendu, le film militant, mais où il y a tellement de choses qui passent, le film de Joris Ivens, qui s'appelle toujours « Comment Yu Kong déplaça les montagnes », qui a disparu pratiquement de toute vision, même dans les ciné-clubs, on le voit pas. Ça a été reprogrammé à la Cinémathèque de Paris, de Bercy, mais sous forme découpée. Je n'ai jamais revu l'intégralité de ce document, qui est un document absolument impressionnant et par endroits effroyable, parce qu'il y a des images notamment de jugement populaire. Je me souviens qu'il y a des textes de Foucault sur le jugement populaire. On voit ce que c'est que le jugement populaire. C'est des petits gars qu'on volait à une devanture et puis ils sont traduits devant le peuple. Et le peuple dit, ça y est, on le tue, on va le pendre. Et bien, lui, il va être pendu. Voilà, donc ça m'a fait réfléchir aussi sur la notion de justice populaire et de tribunal populaire. Vous voyez, voilà. C'est une parenthèse.
Merci beaucoup. Alors, j'aimerais vous poser une question, Monsieur David, sur l'ontologie chinoise. Quelque chose m'a beaucoup surprise, ce que je ne connaissais pas. Je ne savais pas qu'il n'y avait pas de mots pour dire chose en chinois. Alors, je vais vous citer dans le commentaire que vous faites. Vous dites, prenons un exemple pour que ce problème philosophique ne reste pas abstrait, mais vienne déjà à nous inquiéter. Il n'y a pas de chose en Chine. La pensée chinoise ne pense pas ce qui est donné comme une juxtaposition de choses. Autrement dit, elle construit le réel, non pas comme une collection d'entités concrètes et abstraites, individuelles et collectives, une table, un fauteuil, un jeune et un vieux, l'hiver et l'été, la guerre et la paix, mais comme un processus. Alors le processus, ça se rapproche de ce que vous disiez tout à l'heure, mais pour les choses elles-mêmes, comment les concevoir, concevoir l'objectivité?
Moi, je dirais qu'il n'y a pas d'ontologie en Chine parce qu'il n'y a pas de pensée de l'être. Nous, en français, on utilise le verbe être dans deux emplois en réalité tout à fait distincts pour dire, par exemple, que ce livre est rose, lui dont on parle, le petit livre rose, donc. Ce livre est rose, donc on utilise le verbe être comme copule, comme on dit en linguistique, entre le prédicat rose et le sujet livre. Le livre est rose. Mais on utilise aussi le verbe être pour dire ce livre est. Et donc on utilise le verbe être pour dire l'existence de ce livre. Or, cet usage-là du verbe être n'existe pas dans la langue chinoise. Il n'y a pas de verbe pour dire être. Donc il n'y a pas d'ontologie en Chine. Je voudrais poursuivre en reprenant ce que j'ai dit tout à l'heure, en vous lisant un passage. Du coup, je vais être plus précis et pour en tirer une question. Donc je reprends, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur les transformations silencieuses. Lorsque nous vieillissons, nous passons insensiblement de la jeunesse à la vieillesse, sans nous voir vieillir. C'est lorsque nous sommes déjà vieux que nous découvrons, tombant sur une ancienne photographie par exemple, que nous sommes vieux. Mais il n'y a pas un moment, un instant, où nous sommes passés de jeune à vieux. Cette transformation, nous ne l'avons pas vu venir. Il s'agit d'une transformation silencieuse. Je prends un autre exemple. D'un coup, les amants, les époux découvrent qu'ils ne s'aiment plus, qu'il n'y a plus rien entre eux et qu'ils n'ont plus d'avenir commun. Ce n'est pas d'un seul coup que leur amour est mort, bien que ce constat leur saute à la figure à un moment donné. C'est suite à une transformation de la situation qui s'est faite peu à peu de manière insensible. Or, les transformations silencieuses échappent aux catégories de notre pensée occidentale, grecque, qui conçoit des choses séparées et discontinues, mais qui ne pense pas le changement, le processus, le passage global d'une situation à une autre. Pour nous, c'est une chose, un substrat, un sujet qui se modifie. Il y a la neige, puis l'eau, la vie, puis la mort. Mais comment penser le passage de la neige à l'eau? La neige fondue, est-ce de l'eau, est-ce de la neige? Pourquoi supposer un quelque chose derrière les transformations? Pourquoi ces catégories grecques de substance et d'accident? Une chose vient à être, passe de la puissance à l'acte, atteint sa fin, son but, son télos. Le gland en puissance devient un chêne, qui est sa fin, l'acte. Et la langue grecque nous fait penser dans ces catégories-là, de la puissance et de l'acte, du but à atteindre et du sens. Et ce sont donc ces structures mêmes de la langue grecque qui nous contraint à penser la question même du sens de la vie. Nous nous demandons ce que nous allons devenir, quel est le sens de notre vie, d'où effectivement la question de la vie après la mort, d'où la question de l'éternité, d'un au-delà du temps, du paradis, etc. Mais la question même du sens de la vie, question qui pourrait nous paraître naturelle, nous nous disons naturellement, tout homme se pose bien la question du sens de sa vie. Non. Cette question même du sens de la vie, elle nous est... Enfin, nous sommes contraints de nous la poser parce que les langues dans lesquelles nous pensons nous amènent à nous poser la question même du sens de la vie. Un Chinois ne se pose pas la question du sens de sa vie. Le Chinois ne lui permet pas de se poser la question du sens de sa propre vie. Donc il y a quelque chose là qui est à la fois inquiétant et fascinant, qui est que les questions qui nous paraissent les plus naturelles, quel est le sens de ma vie, où vais-je, où est-ce que cela me mène? Ces questions-là, c'est des questions qui nous sont, que nous sommes incités à nous poser parce que nous pensons dans les langues que nous, nous posons. Donc, passer par la Chine, en un sens, permet de dissoudre, non pas de résoudre ces questions, mais de les dissoudre. En tout cas, de prendre conscience que ces questions, nous les posons parce que nous sommes occidentaux. Que, par exemple, l'idée que la mort est une rupture qui vient faire événement, pour nous, la mort vient faire événement est une rupture parce que nous sommes des occidentaux. Le sentiment même de la peur de la mort est un sentiment occidental. La peur de la mort n'existe pas en Chine, puisque la mort n'est pas un événement en Chine. C'est un moment d'un processus de transformation globale. Mais je ne réponds pas spécifiquement à votre question, large.
J'ai envie de reprendre là-dessus, parce que c'est tout à fait intéressant. Et en vous écoutant, j'ai un élément de réponse à la question que je me posais tout à l'heure, c'est-à-dire comment la Chine a-t-elle pu se laisser dominer par la langue marxiste-léniniste qu'elle parle aujourd'hui. On est dans un pays où il y a les partis communistes, c'est le parti communiste qui décide de tout, et c'est la langue communiste qui décide apparemment de tout, apparemment. Eh bien, ça m'avait frappé dès le début chez Mao. C'est qu'il y a effectivement chez Mao, il y avait chez Mao constamment une pensée de la processivité, qui était très étrange par rapport à la tradition de la langue politique en Occident, qui n'était pas une langue volontariste. Quand il disait, par exemple, d'une manière humoristique, parce qu'il avait de l'humour, ce type effrayant, à savoir que c'est pas en un jour que je suis devenu gros. Sous-entendu, ça c'est une transformation silencieuse, évidemment. Et il y avait constamment cette idée. Et si on reprend notamment ce fameux document qui est sa lettre à Changxing pendant qu'il a disparu, c'est-à-dire personne ne sait plus où il est au début de la révolution culturelle, une longue lettre à Changxing, à sa femme donc, qui est une lettre taoïste. Il renvoie une conception taoïste du temps, conception à la fois cyclique, le noir s'inverse en blanc, le blanc va retourner au noir, etc. Constamment, ce sont des inflexions dans un processus interminable. C'est pas quelque chose qui peut être réglé d'une manière volontariste. Et sans parler de ces mots d'ordre stratégique, qui étaient absolument empruntés à la tradition de l'art guerrier chinois traditionnel. Hein, comment ils disaient ça je sais plus quel était le terme qu'ils disaient. C'est les villes encerclées par les campagnes, etc. Enfin, des tas de termes comme ça. Et puis, quand on n'est pas dominant, il faut se retirer, laisser les forces se reconstituer, ensuite pour devenir le dominant, il ne faut jamais essayer d'imposer quelque chose. Bon, voilà. Bref, ça c'était une remarque en passant. D'autre part, vous me confirmez tout à fait ce que je disais tout à l'heure, à savoir c'est bien la langue qui pense, à condition qu'on ne pense pas la langue comme les linguistes, c'est-à-dire comme une structure formelle, etc. Mais comme, encore une fois, je dirais, le berceau même de toute vie et de toute pensée pour l'être humain. C'est là-dedans que l'être humain s'humanise, c'est dans la langue, hein. Alors, je ne sais pas si, de manière générale, il n'y a pas de mort en Chine, ou comment les Chinois pensent leur propre mort, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est qu'un enterrement chinois? Je ne sais pas trop, ça. Je n'ai pas de réponse à cette question. Moi, je vous écoute hein, parler de ça, avec attention. Et, comment dire ça? Moi, ce qui me frappe, justement, c'est la façon qu'a Julien d'avoir raison. Quand il a raison avec Heidegger, mais il ne sait pas que c'est avec Heidegger qu'il a raison, il aurait plutôt tendance à avoir tort quand il croit s'éloigner de Heidegger. C'est un petit peu ça que je dirais. C'est un peu ça ma conviction. Parce que sur la question de les Grecs sont des métaphysiciens, parce que la langue grecque, elle durcit immédiatement l'être, elle en fait une chose, mais justement pas. Moi, c'est ce que m'a appris le fait d'avoir retraduit pendant 4 ans la métaphysique d'Aristote, et je peux vous dire que c'est un travail au jour le jour qui était parfois saignant et difficile, hein, que je me suis imposé, parce que je voulais me prouver que j'étais capable. Et j'en suis sorti, mais j'ai failli abandonner plusieurs fois, parce que c'est un horrible texte, hein, la métaphysique d'Aristote. C'est passionnant. C'est la seule leçon ésotérique qu'on ait conservée de l'Antiquité. De Platon, on n'a que des textes exotériques. Mais c'est une leçon pour des élèves, donc pour, on pourrait dire, des élèves de, non pas de classe terminale, malheureusement, mais des mes élèves de niveau thèse, hein, vraiment ceux qui ont suivi tout le parcours, et ce sont des cours, ce sont des notes de cours de Aristote. C'est le seul texte qu'on a, je ne sais pas comment ça nous a été transmis d'ailleurs, c'est tout à fait inouï. Donc c'est plein de trucs très compliqués à traduire, avec beaucoup de lacunes, il faut reconstituer le raisonnement, etc., parce que les élèves ont suivi, donc il ne va pas tout noter, tout écrire, tout rédiger. Et ce qui me frappe, c'est en effet que la langue grecque, elle est beaucoup plus proche chez Aristote encore. Après, ça va se gâter, mais elle est beaucoup plus proche encore de la langue courante. De même que la langue de Heidegger n'est pas une langue abstruse du tout, c'est la langue de... Il y a pratiquement que des mots courants de l'allemand dans les livres de Heidegger. Il n'invente pas de mots, justement. Il y a le mot technique, mais c'est pas lui. Le mot métaphysique, ben, il vient de l'édition d'Aristote. Donc ça, c'est pas lui qui l'a inventé. Mais à part le mot métaphysique, tous les mots de Heidegger sont des mots de l'allemand courant, mais il les fait travailler. Et Aristote fait travailler des mots courants comme le mot ousia. Or, ousia, c'est pas une chose. Ousia, c'est à la fois, un substantif formé à partir du verbe être. Et il faut prendre le verbe être comme un verbe actif. Être, quand je dis « je vis ma vie », ben c'est le verbe être, « j'existe, je suis, il faut que je sois comme ci ou comme ça, ou je regrette d'avoir été comme ça, je regrette d'avoir été ». Ben, avoir été, c'est pas une chose, hein. Le verbe être n'est pas chosifiant ici. On a du mal en français, d'ailleurs, par rapport à l'allemand, à faire entendre le verbe dans sa dimension active. Le français est très chosifiant, beaucoup plus que l'allemand et beaucoup plus que le grec. Alors, ousia, c'est pas la substance, c'est pas le substrat. Ousia, c'est le fait de... Heidegger l'a traduit très bien, c'est venir en présence. Anwesen, Anwesenheit. C'est une action, ousia, hein. C'est ce qui vient en présence. C'est parousia. Vous avez en grec parousia qui veut dire je viens en présence. Et apousia, je me retire dans la présence. Je me retire. Je disparais, hein. Je me retire, je suis en retrait. Apousia. Alors, au début, ousia, ça renvoie à de la présence. Quelque chose qui est présent, qui est vraiment là. C'est ça que ça veut dire, ousia. Ce qui est là est vraiment là. Ce qui vient vraiment là, c'est pas une chose. Et je crois qu'en grec, il n'y a pas de chose, de même qu'il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de mot pour dire sujet. Il n'y a pas de sujet en grec. Il n'y a pas de sujet. Il y a le pronom ego, mais ça ne se dit pas du tout en philosophie. Et il n'y a pas de mot en philosophie grecque qui traduise le mot sujet. Ça arrive beaucoup plus tard. Ça arrive en latin quand, effectivement, il y a du subjectum, etc. Mais le mot sujet ou subjectivité, qu'on trouve aussi chez Lacan, qui l'a maintenu, mais pas chez Freud, hein. Eh bien, c'est un mot tardif de la métaphysique. Mais en grec, il n'y a pas de sujet et d'objet. C'est pour ça que je me dis que Julien a tout à fait raison d'insister sur le fait qu'en Chine, il n'y a pas de sujet et pas d'objet. Ça, c'est vrai. Mais je dirais que, à l'origine, en tout cas, dans la première philosophie grecque, il n'y a pas de sujet et pas d'objet non plus. C'est tardivement que ça arrive. C'est vraiment tardivement. En grec, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. Par contre, c'est quand le Christ va parler qu'effectivement on lui fait dire ego eimi, moi je suis. Mais là, c'est plutôt traduit de l'hébreu d'une certaine manière. C'est pas du grec courant de dire ego eimi, moi je suis. Hein. C'est une invention chrétienne, ça, de dire ego eimi. Mais les Grecs disent pas ego eimi. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, que je pense. Je m'arrête sur le christianisme, mais c'est très important. C'est une question qui m'attache beaucoup de savoir comment le christianisme parle grec, mais parle grec en pensant hébreu. Ça, c'est une conviction profonde que j'ai avec un certain nombre de gens. Et donc ça change tout, ça change beaucoup de choses, effectivement. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter, mais dans la suite de ce que tu disais, avec quoi je suis profondément d'accord, mais avec cette réserve que sur le grec, je suis plutôt Heidegger que Julien. Je crois que Julien va un petit peu vite. Et notamment sur Aristote, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce qu'il dit. Il tire ça plutôt du côté Barbara Cassin, mais je ne suis... j'ai traduit... Je crois que je peux parler d'Aristote. Maintenant que j'ai traduit la métaphysique, je me sens capable de parler d'Aristote et de dire « Non, Ousia, c'est pas une chose. » Et si vous voulez parler de sujet, ça n'existe pas dans la langue d'Aristote. Il n'y a pas de sujet.
Oui.
Vous utilisez le terme « Geführt ».
Le terme
De Heidegger, « Geführt ».«
Geführt ». Oui, alors ça c'est un terme très important chez Heidegger. Justement, ça se trouve paradoxalement dans Essai Conférence, le texte qui s'appelle La chose, Das Ding. Ce qu'il essaie de dire, c'est que la chose, si on veut parler de la chose au sens strict du terme, la chose, c'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre de l'œuvre. Il prend l'exemple de la coupe de libation. Il dit, la chose c'est quoi? C'est ce qui permet de présentifier ce qu'il appelle Das Geführt, c'est-à-dire la croix des quatre, le quaternaire, c'est-à-dire la terre, le ciel, les hommes, les dieux. Et alors ça, c'est une thèse de Heidegger, on peut complètement la contester, je ne sais pas si Julien la contesterait, c'est de dire que partout où il y a humanité, il y a rapport à ce qu'il appelle Gefirte, c'est-à-dire la croix des quatre, la terre, le ciel, les hommes, les dieux. Est-ce que la Chine n'a pas commencé aussi par quelque chose de l'ordre du Gefirte en disant la terre, le ciel, les hommes, les dieux? Moi, je ne suis pas compétent pour le dire. Il faudrait regarder. Je ne sais pas ce qu'en pense Julien là-dessus. Mais c'est effectivement un terme très important dans la pensée du dernier Heidegger. C'est-à-dire que c'est ça qui préside à ce qu'on peut appeler l'humanité. C'est-à-dire l'homme se définit par rapport au fait qu'il y a des dieux, et l'homme se définit comme habitant de la terre par rapport à autre chose qui s'appelle le ciel. Et ça, il l'a retiré, à mon avis, de la lecture de Hölderlin. Profondément. C'est pour ça d'ailleurs que mon texte s'appelle effectivement là-dedans. Non, c'est dans un autre volume. Hein,
si,
c'est là-dedans.
Oui.
C'est là-dedans que ça s'appelle La Chine ni théiste ni athée, mais dans un autre texte, j'introduis ça, oui, le Tao, le Gefirte. Tao, Gefirte, voilà, c'est ça. Et je pense que Heidegger lui-même d'ailleurs a fait un rapprochement à un moment donné. Il s'intéressait beaucoup au taoïsme à une époque, Heidegger, et il a dit, mais ce que j'appelle Eragnis, dont parle d'ailleurs François Julien très bien dans Philosophie du vivre, Eragnis, c'est-à-dire l'apparition même, le surgissement même de l'être, en tant qu'il est autre que tout étant. Une chose, c'est un étant pour Heidegger. Et donc l'être, c'est, on pourrait dire, la luminescence de ce qui est par-delà toute chose, par-delà tout étant. L'important, c'est pas ce qu'est une chose, c'est qu'elle soit. Et si elle soit, c'est qu'à travers la chose, elle manifeste l'éclair de l'être, l'illumination de l'être, le flamboiement de l'être, en quelque sorte. Et c'est ça l'œuvre d'art, c'est comme ça qu'il comprend l'œuvre d'art. C'est quelque chose qui témoigne du flamboiement de l'être et qui réinstaure d'ailleurs cette lumière de l'être à l'intérieur d'un quotidien qui, lui, est complètement prosaïque et livré au monde des choses, alors là, pour le coup, absolument, au monde de l'étang, à la domination de l'étang, au calcul de l'étang, à la consommation de l'étang, à la technique de l'étang, etc., etc. Et il dit, mais ce que j'appelle Eragnis, parce qu'il dit, je veux plus appeler ça être, parce que tout le monde parle de l'être et on confond être et puis chose, étang, etc., donc j'arrête de parler de l'être, qui est un mot qui vient de la métaphysique, maintenant je dis Eragnis, qu'on peut traduire par avènement, avènement d'être, un avènement d'être. Hein. Je dis Eragnis, mais Eragnis, attention, c'est pas plus un concept que Tao. C'est pas un concept. C'est pas un concept qui permet de maîtriser quelque chose. Et c'est là que je rejoins d'ailleurs la démarche de Julien. Il s'agit pas du tout de maintenir des concepts au sens des concepts de la métaphysique chez Kant. Le phénomène, la chose en soi, le noumène, tout ça, ce sont des concepts. Mais d'essayer de laisser parler dans sa langue à soi, lui c'est l'allemand, il va chercher le mot Eragnis, qui n'est pas un mot rare d'ailleurs, il va chercher Gefirte, qui est un mot qui existe, il n'invente pas de mot, leur faire dire quelque chose qu'il ne disait pas. Et qu'à travers ce mot, on entende effectivement autre chose que ce que la langue ordinaire veut dire, que ce que la langue profane veut dire. C'est pas une langue religieuse pour autant, mais c'est une langue qui fait écho à cette dimension de l'être qui a été, nous dit-il, méconnu par l'histoire de la métaphysique, pas oublié, parce qu'on traduit souvent Ferguson, hein, Fergusonite, par l'oubli de l'être. C'est pas l'oubli, c'est exactement Ferguson. C'est prendre quelque chose pour ce qu'il n'est pas, prendre quelque chose pour autre chose. En français, ça se traduit, ça dit très bien, c'est la méprise. Donc Ferguson, c'est la méprise quant à l'être. On se trompe complètement, on loupe l'être constamment, on le prend pour ce qu'il n'est pas. Voilà. C'est assez simple, au fond, la pensée de Heidegger là-dessus. Si on entend bien Ferguson, parce que ça veut dire, et si on entend ce que Heidegger lui oppose, c'est-à-dire Gefirte, la lumière dès toujours dans toute humanité qui se manifeste par ce quadrige, en quelque sorte, la terre, le ciel, les hommes, les dieux. Et ça permet d'unir d'une certaine manière, par-delà leur abîme apparent, je dirais, le sacré grec et le sacré biblique. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est quoi? C'est une désacralisation systématique, en effet. Qu'est-ce qui demeure de divin? Qu'est-ce qui demeure de sacré? C'est la seule question que je ferai d'ailleurs à Julien, c'est pourquoi ne pas pouvoir reculer devant les termes divin et sacré? Moi, je les maintiens, bien entendu.
Parce que tu es heideggerien et Julien ne l'est pas.
Parce que
tu es heideggerien et Julien ne l'est pas.
Oui, mais bon, c'est pas parce que je suis heideggerien que je maintiens le divin et le sacré, quand même. C'est parce que Heidegger m'a permis de comprendre l'importance de ce que ces mots veulent dire, de ce qu'ils ont voulu dire chez nous en Occident pour les Grecs, de ce qu'ils ensuite ils ont voulu dire pour les Juifs et les chrétiens. Et je m'y tiens, tout simplement. Donc non, c'est pas Heidegger, c'est le fait qu'il y a eu les Grecs et qu'il y a eu les Juifs et les chrétiens. C'est très important. Et je pense que c'est ça qu'ont cherché ces fameux quatre. J'en parle dans mon dernier livre qui s'appelle « L'histoire et la gloire », ce que j'appelle le quatuor sacré. Il s'est passé en Allemagne un événement que je considère considérable dans les années 20, au début des années 20, à savoir quatre juifs, quatre penseurs juifs, différents chacun, qui ont compris au même moment que le sort du peuple juif allait être engagé dans les événements à venir et qu'il fallait rompre avec un certain type de rationalité occidentale pour retrouver la source juive. Ces quatre juifs, que j'appelle le quatuor sacré ou secret, s'appellent Rosenzweig, Benjamin, Scholem, Buber. Et de ces quatre, il y en a au moins deux qui sont partis en 22 en Palestine et qui ont fondé l'Institut hébraïque de Jérusalem, l'école hébraïque de Jérusalem, c'est Buber et Scholem. Voilà, et je parle de ces quatre juifs, surtout d'ailleurs de Buber et de Scholem, qui me paraissent extrêmement importants. Eh bien voilà, ils ont pas lu Heidegger, ils connaissent pas du tout Heidegger, ils ont pas eu besoin d'Heidegger, mais je dirais que c'est leur extra-lucidité de juif allemand qui leur a fait comprendre qu'il fallait revenir à une source qui était pré-philosophique et qui était vitale pour le peuple juif. Et voilà, et donc je mets Heidegger de côté, de ce point de vue-là, ils ont aucun rapport avec Heidegger, qui lui n'a jamais cité, à ma connaissance, la pensée juive, mais qui a rencontré Buber. Voilà, tout ce que je sais.